Bonjour à toutes et à tous, un grand merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire et tout particulièrement de nos cours d'histoire romaine. Dimitri Tilloy d'Ambrosi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro, Dimitri, vous êtes revenu pour nous parler de l'Empire romain et tout spécifiquement aujourd'hui de l'organisation de l'Empire durant la période du Haut Empire. Alors avant de rentrer dans ce sujet, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'histoire en lycée et vous êtes actuellement doctorant à Lyon 3, spécialiste du monde alimentaire. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'Empire romain par le menu », paru chez Arquet Éditions. Et je vous ai interviewé pour présenter votre livre dans une émission que nos auditeurs donc, peuvent retrouver facilement sur notre site storiavoce.com. Alors, comment l'Empire romain était organisé? C'est le thème aujourd'hui. Peut-être avant tout, rappeler les limites chronologiques de notre période. Qu'est-ce qu'on appelle le Haut Empire?
Donc, ce que l'on appelle le Haut Empire est une période qui commence avec le règne d'Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, date à laquelle il obtient tous ses pouvoirs. Et traditionnellement, on l'a fait s'achever en 235, qui marque la fin de la dynastie sévérienne avec l'assassinat de Sévère Alexandre et qui ouvre une nouvelle page de l'histoire romaine assez troublée avec une période de grande instabilité du pouvoir politique, du pouvoir impérial.
Alors, le pouvoir, aujourd'hui, tel qu'on le conçoit, ni plus ni moins, peut apparaître comme un pouvoir centralisé, comme un pouvoir omnipotent. Nous avons évoqué lors de la précédente émission le pouvoir de l'empereur. Comment l'Empire était tout simplement organisé d'une façon générale?
Donc cet empire qui est absolument immense, hein, qui à son extension maximale s'étend de l'Angleterre actuelle jusqu'au Sahara, et puis du Portugal actuel jusqu'à la Mésopotamie, n'est pas un bloc monolithe, en quelque sorte. Il répond évidemment à une organisation assez rigoureuse et évidemment très structurée. Si on veut simplifier et schématiser un petit peu son organisation, on pourrait le faire de la façon suivante. Rome, évidemment, est au cœur de cet empire, au niveau géographique, au niveau évidemment administratif également. Elle est le cœur du pouvoir durant tout l'Haut Empire. C'est le lieu de résidence de l'empereur. C'est évidemment une mégapole aussi par sa population. C'est plus d'un million d'habitants, c'est la plus grande ville du monde antique qu'il n'y ait jamais eu. Et cette capitale domine le territoire italien. L'Italie n'est pas considérée à proprement parler comme une province, on pourrait la considérer comme une extension du territoire de la ville de Rome en quelque sorte. Et puis, au-delà de la péninsule italienne, on trouve les provinces. Ces provinces, ce sont des découpages du territoire de l'Empire, et à partir d'Auguste, on en distingue deux types. Il y a les provinces impériales, qui appartiennent à l'empereur, et les provinces publiques, qu'on appelle provinces sénatoriales parfois également, qui relèvent du Sénat. Alors quand est-ce que cette division a été opérée? Elle a été faite, une fois de plus, durant cette date fondatrice qui est janvier 27 avant Jésus-Christ. Il a été décidé que l'Empire serait partagé entre l'empereur et le Sénat. À tel point parfois qu'on a pu parler d'une diarchie, c'est-à-dire d'un pouvoir qui serait parti entre la personne du prince et les sénateurs. Alors, ces différentes provinces, évidemment, qui sont partagées entre empereur et sénat, c'est une forme de façade, puisque dans les faits, tout relève directement de l'autorité de l'empereur. Chaque province est ensuite divisée en différentes circonscriptions, qu'on appelle un conventus, qui contient différentes cités. Et on en arrive à la cité, qui est justement l'unité de base de l'empire. Et je pense qu'il est préférable de considérer l'Empire romain au niveau territorial, pas comme un ensemble de provinces juxtaposées, de gros morceaux de territoire, mais comme une constellation de cités juxtaposées les unes à côté des autres et qui sont sous le pouvoir du gouverneur et de l'empereur. Peut-être revenir sur la définition d'une cité au sens antique, ça me semble important. Il ne s'agit pas, à proprement parler, juste d'une ville. Il s'agit d'un centre urbain, certes, mais qui possède un territoire plus ou moins vaste, et évidemment d'une communauté urbaine avec ses institutions et ses lois.
Vous évoquiez le gouverneur, il y a un gouverneur célèbre dans l'histoire, c'est Ponce Pilate. Quel est le rôle des gouverneurs?
Alors, le gouverneur est absolument fondamental. Il est le relais entre le pouvoir central, Rome, et l'empereur par extension, et les périphéries, c'est-à-dire les différentes provinces.
C'est une sorte de préfet tel qu'on le conçoit aujourd'hui, un représentant de l'État, un lieutenant, c'est-à-dire qui tient lieu de...
Alors en effet, il a un relais essentiel du pouvoir central au niveau, à l'échelle locale. Alors pour le sens de préfet, c'est un sens très précis dans le monde romain, le préfet appartient à l'ordre équestre, donc c'est un chevalier. Par exemple, Ponce Pilate qu'on évoquait à l'instant,
et préfet,
lui est un
non
préfet,
gouverneur.
Voilà. Il dépend du gouverneur de Syrie, qui est au-dessus, qui sont supérieurs hiérarchiques en quelque sorte. Alors, les gouverneurs, en fait, sont de deux types en fonction des provinces où ils se trouvent. À l'origine, les gouverneurs sont des magistrats dont on a prolongé la magistrature d'un an, généralement, pour pouvoir gouverner une province. Par exemple, les premiers gouverneurs qui ont été créés, c'est au IIe siècle avant Jésus-Christ en Sicile, c'était d'anciens consuls. Mais avec l'extension de l'Empire et la multiplication des provinces, évidemment, il a fallu trouver une nouvelle solution, donc le gouvernement d'une province est allongé, d'une part, et puis on a démultiplié, évidemment, les gouverneurs. Alors, tout à l'heure, on parlait des provinces impériales et des provinces sénatoriales. Dans les provinces impériales, le gouverneur est nommé directement par l'empereur. On dit qu'il est légat d'Auguste Propraeteur. Donc, légat, il représente indirectement l'empereur sur place. Dans les provinces publiques ou sénatoriales, c'est le Sénat qui choisit le gouverneur. On parle alors d'un proconsul. Un consul qui a été prorogé, donc prolongé d'un an, mais officiellement choisi par le Sénat, mais officieusement, la liste a été évidemment avalisée par l'empereur. Alors, les missions du gouverneur sur place sont fondamentales, elles sont multiples. La principale, une des plus importantes, c'est assurer l'ordre et la sécurité. Assurer l'ordre, eh bien évidemment, c'est important, notamment dans les périodes qui suivent la conquête, hein, veiller à ce qu'il n'y ait pas de révolte contre le pouvoir. Également, assurer la sécurité en temps normal, en temps de paix, ne serait-ce qu'à cause des problèmes de brigandage hein, qui sont importants, par exemple, à l'époque impériale. Il a également un pouvoir de justice, et ça c'est absolument fondamental, c'est une de ses principales activités. Il ne réside pas en permanence dans sa capitale provinciale, mais il parcourt sa province toute l'année pour rendre justice, écouter les justiciables hein, qui sont sous son autorité. Et également, le gouverneur doit veiller évidemment à ce que les impôts rentrent correctement dans les caisses de Rome.
Donc un rôle financier, un rôle judiciaire et en même temps finalement un rôle militaire. Je reviens sur les cités. C'est vrai que dans les livres d'histoire, on imagine la cité comme une cité romaine idéale avec son aqueduc, avec ses thermes, etc. Est-ce qu'il y avait différents types de cités avec leur caractère propre ou il y avait au contraire la volonté de la part des autorités impériales d'imposer un modèle de cité?
Alors si on se place au niveau administratif, en fait il y a une véritable hiérarchie des cités, c'est extrêmement structuré et on trouve au sommet les colonies, qui sont les cités les plus prestigieuses de tout l'Empire. Elles sont considérées comme des cités sœurs jumelles de Rome, en quelque sorte. Généralement, il s'agit de cités qui ont été fondées ex nihilo, ou alors à proximité parfois d'un ancien centre urbain, avec une implantation de vétérans. On parle d'une déduction de colonies. On implante soit des vétérans, d'anciens soldats démobilisés. C'était le cas très souvent à l'époque césarienne, par exemple avec Lyon, en 43 avant Jésus-Christ, ou bien des citoyens qui vont être envoyés comme des colons. Alors ces cités, évidemment, sont une minorité, mais elles ont un très grand prestige. Juste en dessous, on trouve ce que l'on appelle les municipes. On retrouve le mot municipal, hein, encore aujourd'hui, qui vient de là. Les municipes, ce sont d'anciennes communautés civiques ou non, d'ailleurs, mais des communautés pérégrines d'étrangers, qui ont reçu le statut civique de la part de Rome. Elles sont reconnues comme une cité, au même titre que les cités d'Italie, par exemple. Enfin, la majorité des cités sont ce que l'on appelle les cités pérégrines, c'est-à-dire des communautés civiques, mais étrangères à Rome, concrètement, où le droit romain ne s'applique pas. Ce sont des cités qui conservent leurs propres droits. Mais, et c'est là que ça se complique, ces cités pérégrines, on peut en distinguer trois catégories principales. Il y a les cités libres, qui sont quasiment indépendantes, et là, le gouverneur n'a pas le droit d'intervenir, elles sont quasiment indépendantes. Bon, évidemment, il y a une suzeraineté par rapport à Rome. Des cités fédérées, ensuite, ce sont des communautés qui, durant une période de conquête, par exemple, hein, se sont illustrées par leur fidélité à Rome. Elles se sont alliées à Rome, par exemple, durant une période de conquête. Et enfin, la majorité, les cités stipendiaires, des cités qui payent un tribut, qui marquent leur soumission à Rome et leur statut d'infériorité par rapport au pouvoir romain.
Donc un maillage finalement très complexe. Comment ces cités sont-elles administrées ?
Alors, c'est là le succès de Rome, en quelque sorte, et du système de l'Empire romain. C'est que Rome n'a pas les moyens, évidemment, financiers, humains, administratifs, de tout gérer directement. Et Rome a pour habitude d'être assez pragmatique, finalement, et de beaucoup déléguer le pouvoir, la gestion des hommes, des territoires. Alors, pour les cités pérégrines, très souvent, les institutions qui existaient auparavant restent en place. Par exemple, si on se place dans la partie orientale de l'Empire, en Grèce par exemple, eh bien, les cités gardent les institutions qui bien souvent sont encore celles de l'époque classique. Athènes conserve sa boulée, son ecclésia par exemple, et donc Rome s'appuie sur ces institutions qui existaient déjà auparavant pour que les cités puissent s'auto-administrer en quelque sorte. Pour les colonies, on a quelque chose, et les municipes d'ailleurs, c'est un petit peu différent. Il y a une volonté d'imiter Rome, dans le sens où on va trouver un sénat local, un corps de citoyens et des magistrats. Au sommet, on trouve ceux qu'on appelle les duumvirs, les deux hommes qui dirigent la cité. Donc globalement, si on résume, le pouvoir romain, le pouvoir impérial, et même celui du gouverneur, intervient assez peu dans les cités, elles s'administrent elles-mêmes pour les affaires courantes. En revanche, lorsque le pouvoir impérial intervient, et ça arrive, que ce soit le gouverneur ou bien des envoyés de Rome, c'est lorsque les cités rencontrent de grandes difficultés, notamment au niveau financier. Lorsqu'une cité gère mal son argent, lorsqu'elle est en situation de crise, le Sénat peut envoyer un curateur qui ne va pas forcément punir la cité, mais au contraire l'aider à remettre de l'ordre dans ses comptes. Alors on est assez bien renseigné par tous ces aspects grâce à une source absolument fondamentale qui sont les lettres de Pline le Jeune. Pline le Jeune, qui a vécu et exercé ses fonctions sous le règne de Trajan, donc au IIe siècle après Jésus-Christ, nous raconte très précisément, à travers ses lettres, l'administration de sa province de Pont-Bitini, qui se trouve en Turquie actuelle.
Comment l'Empire est-il protégé ?
Alors cet empire absolument immense est bien protégé par les armées de Rome et un système assez complexe développé par le pouvoir romain.
Les villes jouent un rôle dans cette protection ?
Alors, certaines villes qui se trouvent sur les frontières peuvent avoir un rôle dans le sens où quelques colonies, comme Cologne par exemple, étaient à l'origine des colonies de vétérans implantées ici pour protéger les frontières. Puisque tout autour des frontières, c'est ce que l'on appelle le limes. Alors c'est un concept qui est un petit peu discuté par les historiens, mais généralement on l'explique de la façon suivante. Il s'agit d'un réseau de fortifications, de forts plutôt, et parfois de murs, destinés à protéger l'Empire. Alors il ne s'agit pas d'une ligne simple, évidemment, mais il s'agit de plusieurs couches parfois, comme on le voit sur le mur d'Adrien, qui protègent l'Empire. À l'origine, donc, on a un réseau de forts de légionnaires qui sont installés tout autour des frontières, que ce soit en Germanie, le long du Danube, en Syrie, en Afrique du Nord également. Mais au IIe siècle après Jésus-Christ notamment, le pouvoir impérial, et Adrien par exemple, entreprend de fortifier, de consolider ses frontières, parfois avec la construction de murs ou de palissades. On peut prendre l'exemple du mur d'Adrien, peut-être, pour illustrer et mieux comprendre l'organisation de cette frontière. Actuellement, ce qui nous subsiste essentiellement de cette frontière, c'est le mur que tout le monde connaît. Mais il faut bien voir que ce mur est doublé d'une route, une rocade militaire qui permet aux troupes de circuler rapidement. Il y a des forts disposés régulièrement le long de ce mur, des avant-postes, des fossés en avant au nord de la frontière, évidemment face au peuple barbare, mais également au sud, pour se protéger d'éventuels troubles, d'éventuels actes de rébellion venant de populations sous domination romaine. Donc c'est un ensemble assez solide qui permet, en tout cas jusqu'au IIIe siècle, globalement, de bien protéger l'Empire.
Il y a la protection de l'extérieur, il y a aussi la protection de l'intérieur. Est-ce que la domination romaine est acceptée ? On a tous en tête l'idée de la révolte des Juifs au premier siècle. Est-ce que c'est une chose qui existe par ailleurs avant que l'Empire, au fond, disparaisse, notamment sous le coup des royaumes barbares ?
Alors, si on se place sur la période du Haut Empire, et là je pense qu'il faut être évidemment attentif à la chronologie et aux espaces, globalement, la domination romaine est plutôt acceptée. Je dis bien plutôt, puisqu'il y a des actes de révolte, mais qui sont assez sporadiques. Si on prend l'exemple de la Gaule romaine, ou même d'autres provinces d'Occident, comme l'Espagne, généralement, une fois que ces provinces ont été conquises, la domination romaine s'est installée de façon plutôt solide. Même si en Gaule, il y a pu avoir des actes de rébellion, par exemple, en 21 après Jésus-Christ, dans le nord-est de la Gaule, il y a une grande révolte, qui est celle de Julius et de Sacrovir, mais, et là c'est intéressant, cette révolte ne s'explique pas nécessairement par un rejet du pouvoir romain, mais par des raisons fiscales. Donc en fait, lorsqu'il y a des actes de contestation, ce qu'on appellerait des émotions en quelque sorte, à des périodes postérieures à la conquête, bien souvent ce sont des raisons fiscales. Alors malgré tout, certains territoires ont été assez difficiles à pacifier, c'est le cas des Alpes notamment, il a fallu attendre l'époque d'Auguste pour que les Alpes soient pacifiées, le nord-ouest de l'Espagne également, la région des Cantabres et des Astures, qui était pacifiée uniquement sous Auguste. Donc voilà, malgré tout, il y a certaines poches, certaines régions qui ont été plus difficiles à dominer que d'autres. Alors, les frontières sont protégées, on l'a dit tout à l'heure, mais en cas de troubles importants, évidemment, les soldats peuvent intervenir à l'intérieur. Alors, il y a quelques exceptions, évidemment, des révoltes de très grande ampleur à l'époque du Haut Empire, à l'époque de la paix romaine, de la Pax Romana. On pense à la révolte des Juifs que vous avez évoquée, et il y en a deux qui se déroulent pour l'époque qu'on étudie. Il y a la grande révolte, évidemment, à la fin du règne de Néron, qui sera matée par Vespasien et son fils Titus, mais il y en a une autre, entre 132 et 135, sous le règne d'Adrien. Et là, ces révoltes juives s'expliquent par des motifs un peu particuliers que l'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans l'Empire. Il y a des motifs religieux, des raisons également, entre guillemets, nationalistes, on pourrait dire. On peut citer aussi la révolte de Boudica en Bretagne, cette fameuse reine bretonne qui s'est insurgée contre le pouvoir romain. Pourquoi ? Parce que c'est une province qui a été conquise assez récemment. Elle a été conquise sous Claude, en fait, dans les années 40 après Jésus-Christ.
Alors, quel est le lien entre le monde d'en bas, ou en tous les cas le monde extérieur à Rome et la cité romaine? Ce sera l'objet d'un autre cours d'histoire à travers un document très important qui s'appelle la table claudienne. Merci beaucoup Dimitri, et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour le dernier volet de ce triptyque consacré à Rome.